On va avoir des explications sur des projections et ce que ça signifie pour l'avenir du Parlement européen et pour le projet européen en général. Ces prévisions qui font que les extrêmes semblent aller être les grands vainqueurs des futures élections. On retrouve pour nous en parler Simon X. Il est entre autres professeur de sciences politiques à l'EUI, l'European University Institute.
Simon X, good morning.
Bonjour.
Hi. Good morning.
So you are a professor at the
Vous
Department
êtes professeur
of
de sciences politiques
à
l'EUI, l'European University Institute, et co-auteur du rapport du Conseil européen pour les relations internationales qui prédit une poussée des partis d'extrême droite aux prochaines élections européennes. Pouvez-vous nous expliquer d'abord les résultats des données que vous avez rassemblées?
Nous sommes partis des constats suivants. L'augmentation du soutien aux partis de la droite dure lors des deux dernières élections européennes et l'augmentation du soutien aux partis de droite ou d'extrême droite dans de nombreux pays d'Europe au niveau national. Si l'on prend les derniers sondages d'opinion et que l'on compare ce qui s'est passé auparavant lors des grandes élections européennes, ce que nous avons fait dans notre rapport, on peut en conclure que pour les élections 2024, les partis d'extrême droite soient plébiscités dans de nombreux pays d'Europe. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation significative de la représentation de ces partis au sein du Parlement européen en juin 2024. Cela voudra dire qu'environ un quart de tous les eurodéputés seraient susceptibles d'appartenir à des partis populistes de droite, d'extrême droite ou à ascendance nationaliste à travers l'Europe. C'est un peu comme au niveau national où dans certains pays, l'extrême droite a également conquis l'électorat et soudain, ces partis sont devenus incontournables, la droite et l'extrême droite devenant une force majeure du paysage politique qu'on ne pouvait plus ignorer. Et c'est une certaine manière ce que montre notre prévision au niveau européen. Cette montée des extrêmes va donc faire l'objet d'un grand débat. Les principaux partis vont devoir se confronter à la question suivante. Doit-on commencer à composer avec la présence de ces partis et les inclure dans le processus démocratique? Cela va être de plus en plus difficile parce que le bloc de l'extrême droite va devenir particulièrement important, surtout pour le groupe de centre-droit au Parlement, le PPE, Parti Populaire Européen, où ils sont déjà relativement bien représentés. Il y a également maintenant au sein d'un certain nombre de gouvernements nationaux une forte représentation de partis d'extrême droite. Cela va donc nécessairement se refléter au sein du PPE.
There's going to be an impact like at the decision making process, which means that probably it's going to.
Ces partis dont vous parlez qui ne sont pas vraiment des partis pro-européens, est-ce que cela va affecter le Parlement européen dans ses prises de décision?
Il est vrai que ce sont des partis relativement eurosceptiques, mais je crois que nous assistons à une transformation de l'extrême droite, la plupart de ces partis n'étant plus aussi explicitement anti-européens qu'autrefois. Aucun d'entre eux n'est en faveur d'une sortie de la France, des Pays-Bas ou de l'Italie de l'Union européenne, par exemple, mais ils se disent être en faveur d'une Union européenne différente. Ils veulent une Union européenne plus décentralisée, plus flexible, une Union européenne qui prenne des mesures plus fortes, qui soit plus perfectionniste dans certains domaines, comme sur la scène internationale. Cela passe notamment par un renforcement des frontières européennes, l'adoption d'une position ferme sur l'immigration, l'idée d'une Europe forteresse. Voici le genre de thématique qu'ils vont apporter au projet européen. Un autre domaine qui sera impacté sera également, et nous le soulignons dans le rapport, c'est la politique environnementale. Beaucoup de ces partis se mobilisent aujourd'hui contre la politique environnementale actuelle qui devient plus restrictive et plus ambitieuse en matière de lutte contre le changement climatique. Il pourrait donc y avoir un bloc de députés européens qui pour la première fois véhiculent des idées climato-sceptiques, ce qui pourrait être dramatique pour la politique environnementale de l'Union européenne.
Et sur la politique étrangère, c'est aussi quelque chose que vous soulignez dans votre rapport.
S'agissant de la politique étrangère, bien que l'on parle de MEP, qui ont généralement des vues relativement eurosceptiques, on voit l'émergence d'une variante de ce courant d'idées, c'est-à-dire qu'ils parlent en fait de protection de l'Europe contre le monde, ce qui en fait des nationalistes européistes. Finalement, ils prennent leur nationalisme au niveau national et le transportent au niveau européen. Ils disent que l'Europe devrait défendre défendre les intérêts européens dans le monde contre la Chine, contre l'Amérique, contre les entreprises technologiques américaines. Ils sont en général assez méfiants vers les secteurs de la tech en règle générale. Mais lorsqu'il s'agit de la Russie et de l'Ukraine par exemple, ces partis sont très divisés au niveau national. D'un côté, il y a un Viktor Orban qui est en relativement favorable à Vladimir Poutine. De l'autre, des partis très critiques à l'égard de Poutine, en particulier ceux qui viennent d'Europe centrale et orientale. Les opinions et les attitudes à l'égard de l'action de l'Europe en Ukraine sont donc très variées. Et au Moyen-Orient, c'est une question très difficile pour ces partis, bien que certains de ses membres aient été relativement antisémites. Je pense que ce groupe est maintenant plus anti-musulman qu'antisémite. Il s'agit donc de défendre un groupe qui défend beaucoup plus Israël dans le conflit au Moyen-Orient, et donc bien qu'il faille nuancer et qu'il y ait évidemment des dissensions au sein de ces groupes, je pense que c'est un groupe qui est relativement favorable à la position du gouvernement israélien, en particulier contre les Palestiniens.
Je voudrais maintenant parler de la tendance en tant que telle. Est-ce que ça vous surprend d'une part et est-ce que c'est irréversible de l'autre ?
Ce n'est pas surprenant dans la mesure où nous avons assisté à une sorte de montée progressive du soutien à ces partis dans toute l'Europe. Je pense que ce qui interpelle aujourd'hui, c'est qu'on voit cette tendance être reflétée aussi majoritairement en même temps lors des élections européennes de cette année. Si vous regardez les sondages d'opinion et ce qui va probablement se passer lors des élections, vous verrez pour la première fois ces partis populistes de droite arrivent en tête dans 9 États membres sur 27 et en deuxième ou troisième position dans 9 autres États membres. Il semble donc qu'il y ait 18 ou 19 États européens où ces partis sont soit en tête, soit en deuxième position. Il s'agit donc d'une transformation spectaculaire par rapport à ce qu'on a vu il y a 5 ans. C'est donc une tendance qui se confirme et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces tendances se rejoignent. D'une certaine manière, c'est dans toute une série de questions communes aux sociétés européennes qui motive ces partis. Il s'agit en partie de la croissance des inégalités, les inégalités de revenus, les inégalités régionales, les mesures d'austérité imposées par les gouvernements, le chômage chez les jeunes qui ne parviennent pas à trouver d'emploi, parce qu'il y a un autre constat également aujourd'hui. Beaucoup de jeunes votent pour ces partis populistes de droite. Ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir les mêmes opportunités que les générations précédentes. À cela s'ajoute l'importante migration vers l'Europe. Et bien sûr, ils commencent à accuser les migrants d'être responsables de leurs problèmes, même si évidemment ce n'est pas si simple que ça. Mais ces partis d'extrême droite sont habiles lorsqu'il s'agit de trouver des liens de cause à effet entre les questions économiques et celles liées à l'immigration et à trouver des solutions simples en un sens. C'est un terrain fertile qui permet à ces partis de prospérer.
C'est pas la première fois qu'on entend parler de la montée de l'extrême droite dans les élections européennes. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci ?
La différence fondamentale réside dans le fait que cette fois-ci, on franchit un seuil où il sera très difficile de former une majorité au Parlement sans devoir inclure les partis d'extrême droite. Dans le passé, on pouvait simplement les ignorer. Cette fois, d'après les données, ils vont franchir un seuil où ce ne sera pas possible pour le PPE. Par exemple, de former une majorité au Parlement sans les inclure dans la coalition. Et ça, c'est du jamais vu. Vous m'avez également demandé ce que l'on pouvait faire à ce sujet et je pense que les principaux partis européens sont vraiment confrontés à cette question et je ne pense pas qu'ils aient encore une réponse. Au cours des 20 ou 30 dernières années, nous avons assisté à des changements spectaculaires dans la société de l'économie européenne et les partis traditionnels les ont en quelque sorte ignorés. Les partis traditionnels se concentrent sur ce qui se passe cette année ou l'année prochaine sans vraiment réfléchir à la manière de relever des défis structurels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Tant que les partis principaux n'auront pas une vision plus long terme, et quand je dis ça, j'inclus les partis centre-droit et centre-gauche, les partis d'extrême droite continueront à séduire. En un sens, la démocratie, c'est un peu comme une soupape de sécurité. Quand il y a des crises dans nos sociétés, dans nos économies, ça finit toujours par se refléter dans les élections.
Est-ce qu'il y a des réactions de la part du PPE ou du SED ou de ces partis qui vont être impactés par cette tendance face à cette étude ?
Ce qui est intéressant, c'est que le retour que nous avons de ces partis politiques, c'est « oui, merci, nous savons déjà que cela va arriver ». C'est cohérent avec nos projections en interne.
By this, right?
Yeah, I mean... It's interesting because, you know, the feedback we get from those parties is, yes, we know this is coming, you know, so thanks for telling us. We kind of...
Je pense qu'au sein du PPE, il y a un grand débat sur la façon dont ils doivent réagir à cette tendance, parce que c'est le véritable problème dans beaucoup de partis de centre-droit en Europe. Comment réagir à cette montée qui semble inévitable? Est-ce que l'on embrasse des partis d'extrême droite également et l'on prend alors le risque de perdre une partie de sa base électorale? Pour le moment, leur réponse est plus d'essayer d'empêcher certains électeurs de voter pour l'extrême droite. C'est ce que nous constatons dans différents pays d'Europe, par exemple aux Pays-Bas, avec le VVD qui a opéré un virage à droite pour tenter d'écarter Bart Wilders, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. En France, les Républicains ont adopté cette même stratégie pour tenter d'arrêter Marine Le Pen, mais cela ne semble pas fonctionner non plus. En Allemagne, le CDU est confronté à un dilemme similaire avec la montée des partisans de l'Alternative pour l'Allemagne, AFD. Donc la réaction du PPE, c'est dire oui, on s'y attend, mais il reste divisé sur la marche à suivre. C'est soit nous reconnaissons que ces partis sont en pleine croissance, mais essayons de les ignorer. Mais d'autres disent que ces partis se développent et nous devons peut-être travailler avec eux. Le vrai parti à surveiller, à mon avis, c'est le CDU en Allemagne, car la réaction de la CDU à ce qui se passe dans la politique allemande influencera nécessairement la ligne de conduite du PPE à Bruxelles.
Simon Hicks, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'European University Institute et co-auteur d'un rapport publié par le Conseil européen pour les relations internationales qui prédit une poussée des partis d'extrême droite aux prochaines élections européennes. Merci à vous et à bientôt.
Bye.